Pascal de Léon, donc CNRS, Université du Temps. Ça va, ouais. Je voulais marquer 2-3 points dans l'introduction au débat. La première chose, c'est qu'il y a une vraie justification à traiter de l'Ouest, non seulement parce que c'est le fait de l'affaire, ça c'est une raison qui pourrait être soit anecdotique, soit historique de la pensée, mais il y a une vraie raison dans la mesure où il y a une trajectoire particulière de l'Ouest politique depuis les interventions ont signalé, depuis cette écriture majeure du tableau politique, et donc le siècle, le 20e siècle politique, a marqué une trajectoire spéciale de l'Ouest politique dans l'ensemble des Français. Donc ça me paraît une des raisons majeures. Et pour l'apprécier, c'est à la fois en statique et en dynamique. Et donc je vais faire très court. Il y a 4 grands traits, à mon avis, qui différencient l'Ouest de façon irréductible de toutes les autres régions françaises. Et ces 4 grands traits sont dans une trajectoire nationale, mais avec une petite musique particulière. On l'a vu abondamment, la droite était hégémonique de façon extrême, dans le sens majeur en pourcentage. Elle ne l'est plus, elle est souvent minoritaire, et lorsqu'elle est majoritaire, cela se réduit fortement à une dorsale intérieure, dont on a peu parlé d'ailleurs, et qui va de la Manche à la Vendée, en gros, pour parler vite. Une espèce de réduction du môle, et d'ailleurs qu'on voit lors des événements d'étiage de gauche, deux événements, 93, pour faire vite, aux élections législatives, et puis élections de Nicolas Sarkozy, on voit ce môle s'étendre à nouveau, et puis on a des mouvements de contraction. Ça, c'est sur le plan électoral. Premier trait. Deuxième trait, toute la discussion a montré que sur la progression de la gauche, elle est sortie de ces isolats, elle a pris des majorités de ce point de vue-là. Donc, l'Ouest, en général, tire les résultats nationaux, surtout dans les élections récentes. Mais surtout, les troisième et quatrième traits sont très caractéristiques de l'Ouest. C'est que systématiquement, quasi systématiquement, le vote écologiste, à partir du moment où il apparaît, on en a très peu parlé pendant 2 jours, est systématiquement au-dessus de la moyenne nationale, et inversement, le vote Front National est quasi systématiquement en dessous, quelle que soit la moyenne qu'il cesse de monter, je rajouterai malheureusement, parce que je ne fais pas seulement d'appréciation scientifique sur le sujet, le vote Front National est systématiquement en dessous de sa moyenne nationale. Et tout ça se fait sur un fond d'homogénéisation nationale de l'opinion et du vote, dont il faudra rediscuter des constituants d'homogénéisation, mais où à la fois le système de vote, les pratiques de campagne et la place du système médiatique dans ce système de campagne jouent un rôle majeur. Et donc la combinaison des 4 traits que je viens de marquer est totalement spécifique à l'Ouest français. Il n'y a pas d'autre région, même juste à côté, la région centre, c'est pas ça. Et donc, de ce point de vue-là, l'Ouest, c'est une petite discussion amicale avec Michel depuis la période de sa thèse sur le sujet, il a complètement raison de reprendre tout l'Ouest, etc. Mais ce qu'il faut constater, c'est que la Haute-Normandie s'est coupée de cet ensemble Ouest. Elle n'est pas dans les 4 traits que je viens de décrire. Elle est dans un ensemble de jeux politiques plus proche du grand ensemble bassin parisien, ce qui n'empêche pas du tout Yves Garbeau, qu'on a échangé amicalement tout de suite, d'avoir des projets pour une Normandie unique, et donc sa caractéristique de coupure politique ne l'obère pas. Quatrième point, très vite, et tout cela, cette projection, c'est à mon sens le produit de la combinaison complexe que j'ai essayé de passer rapidement hier, et qu'il faut un certain temps pour le faire, au-delà de ce grand 19e qui, pour l'Ouest, a été jusqu'aux années 60, et que il s'est fait en accéléré dans cette nouvelle matrice des années 60 aux années 2000 pour accoucher dans la politique, dans les résultats politiques des années 70 et des années suivantes, du résultat qu'on a vu. Et donc, évidemment, l'interrogation, c'est quel ressort ? Quel est le ressort de ce fort mouvement ? On en a parlé hier et aujourd'hui. Il y a, à mon sens, de façon majeure, cette contraction de ce grand mouvement social, économique, qui touche à toutes les activités de la sphère économique et sociale, et les pratiques sociales, j'en ai montré dans le détail sur Talmont, on pourrait prendre dans d'autres zones sous d'autres formes, les pratiques sociales ont considérablement changé, et c'est au cœur de ces pratiques que les références, le positionnement ont considérablement changé. La fabrique des comportements, à mon sens, ce sont les pratiques sociales, celles du contemporain, ce qui n'exclut pas du tout qu'à l'intérieur de ça, la réincorporation des héritages, des récits dont on a parlé, vient de jouer un rôle. Mais la fabrique constante contemporaine, c'est ce sont les pratiques sociales. Et donc, le changement considérable en point industriel, urbanisation, transformation de l'espace rural, voilà, à mon sens, les bases sociales et spatiales du changement politique à partir des années 70. Les jeunes ouvriers, employés, qualifiés, urbains, c'est ça la base qui fait la bascule dont on a encore parlé tout de suite pour la Bretagne. Mais ça amorce le modèle politique. Après le mouvement de périurbanisation, etc., fait justement, et pour refaire un retour référence aux discussions d'hier avec Siegfried, fait de la diffusion politique, comme les idées se diffusent, c'est de la métaphore qui n'est pas fausse sur les questions de santé et de diffusion et des contagions sur le plan sanitaire. Ces phénomènes de diffusion, y compris dans l'interaction spatiale sur lequel insistait Michel hier, joue dans ce point de vue-là. Et donc, amorçage au début, diffusion ensuite, et c'est là que les mobilités jouent un rôle majeur, c'est là que le recul de l'influence de l'Église, d'une part en tant qu'institution, et l'évolution au sein même de l'Église anglicane joue un rôle extrêmement important pour cette partie de la France. Bref, si on ramasse les choses, à mon sens, cette bascule totale de la trajectoire politique du Grand Ouest français, c'est fait d'interactions, de coexistence de phénomènes, de rythmes différents, je reviens sur mes propositions d'explication hier sur les temps différentiels, de rythmes différents, de trames, de dynamiques, de bons, donc, d'une matrice antérieure qui est grand 19e, fidélité, avec un trait de rattrapage accéléré par rapport à la situation nationale des années 70, 73 précisément, législative, jusqu'à la fin des années 2000. Et tout ça, même en niveau d'ensemble, à un même niveau d'ensemble qui se stabilise maintenant. Et aujourd'hui, le modèle ouest n'a plus du tout les traits aigus de coupure, de saillie brutale dans les villes, tel qu'on a pu surgir dans les années 70. Il s'est arrondi, il s'est lissé, mais il est le produit de ces changements. Donc voilà, de trop rapidement ramasser ma suggestion d'interprétation sur la trajectoire politique de ce Grand Ouest.
Armand ?
Oui, Armand Frémont. Alors, je me présente parce que ça compte par rapport à mes interventions éventuelles. J'ai eu deux carrières. J'ai été pendant 25 ans professeur à l'université de Caen. Et j'ai travaillé pendant 25 ans, et peut-être encore un peu plus, sur l'Ouest en général, la Normandie en particulier. C'est la première chose. Mais je ne me suis pas spécialement intéressé aux phénomènes politiques. Sauf pour le livre demandé par Yves Lacoste au début des années 80. Et encore, je me trouvais pas mal occupé et j'ai dû un peu forcer la main. La deuxième chose, j'ai eu une vingtaine d'années, un petit peu moins, d'une carrière que j'appelle politico-administrative, avec des attributs de haut fonctionnaire. Je le dis non pas pour m'étaler, mais parce que ça permet de comprendre rapidement. J'ai été recteur à deux reprises, hors de l'ouest de la France. J'ai été directeur au ministère et j'ai été conseiller scientifique de la data. Tout ça en une vingtaine d'années. Alors, là encore, on peut dire j'ai été hors du coup de ce qui nous intéresse pendant ces deux jours, et en même temps, j'ai été tout le temps dans le coup. C'est-à-dire que j'ai été continuellement un observateur, un acteur, auprès des hommes politiques, avec eux, contre eux, tout comme vous voulez, et me donnant dans ce domaine, je crois, une certaine expérience, en tout cas que je ne regrette pas. Mais je ne regrette pas du tout mes 25 années de Caen. Hein, je suis très content d'avoir fait ces deux choses-là. Alors, ceci pour être bref, mais pour être bien compris. Je disais par exemple que, à notre collègue tout à l'heure, qui est intervenu sur le fait, je sors un peu de l'Ouest, généralise un peu plus, qui disait tout à l'heure qu'il avait été frappé à juste titre par le fait que presque tous les intervenants insistaient sur le rôle de telle ou telle personne, de telle ou telle personnalité. Et je crois que c'est très juste. J'ai une hypothèse, hein, une hypothèse, mais qui mérite d'être travaillée. La France est le pays des 36 000 communes. Et ces 36 000 communes sont le vivier du personnel politique. Or, d'assez nombreux hommes politiques ont pu me dire, et vous avez pu l'entendre aussi, le plus beau des mandats, c'est celui de maire, juste après le président de la République. Et or, le maire, y compris dans une toute petite commune, c'est une personnalité. Et encore une fois, je pense que le vivier du personnel politique en France, il est là. Alors maintenant, sur l'Ouest, je ne vais pas trop m'étendre, peut-être parce que je ne suis pas à jour, hein, je suis avant tout retraité, 10 ans de retraité, ça décale de beaucoup de connaissances, même si on continue à être très actif. Et première chose, pour dire que je m'associe complètement à Pascal Bullion pour souligner le fait que on a peu parlé de l'Ouest dans son ensemble. Or, l'Ouest dans son ensemble par rapport à la France. Et je ne vais pas insister plus, puisque il en a très très bien parlé. Je dirais simplement que le découpage qui est retenu ici de l'Ouest, parce que quand on se met à découper un géographe ou un homme politique d'ailleurs, le découpage est toujours contestable. Et donc, même pour l'Ouest, on peut le découper d'autres manières. Moi, je dis que le découpage d'aujourd'hui, il est bien. C'est l'Ouest qui me convient. Je ne vais pas argumenter là-dessus. Et incontestablement, il me semble qu'il y a là-dedans, dans ces trois régions, il y a un ensemble qui se distingue du reste de la France et sur lequel, par conséquent, il est légitime de réfléchir ensemble. Alors, la deuxième chose que je veux dire brièvement, c'est, je reviens à ce livre sur la géographie politique de la France de l'Ouest et plus particulièrement de la Basse-Normandie que j'avais fait avant Pascal, et pour dire que là, ce travail intervenait juste après quelque chose que nous avions développé dans le cadre du CNRS et qui était l'ATP changement social et qui portait sur l'Ouest. Je ne vais pas revenir dessus, ça a été un petit peu évoqué, mais je retiens une formule qui doit être de Jean Renard, d'ailleurs, hein, qui doit être de Jean Renard pour Saint-Fulgent, mais qu'on a volontiers élargi. Tout change, alors on est au début des années 80, tout change, rien ne bouge. Et est-ce que cette formule-là peut être appliquée, c'est votre sujet finalement, hein, peut être appliquée à l'Ouest. Et dans l'Ouest, aux différentes composantes qui font l'Ouest. Pas de réponse de ma part pour le moment. Je vous laisse justement apprécier en fonction de tout ce qui a été dit. Mais un commentaire sur chacun des mots, qu'est-ce qu'on voulait dire derrière ça? Qu'est-ce que Jean a pu vouloir dire et qu'on a repris avec succès? C'est une formule qui a été entendue et qui a été prise ailleurs. Alors, tout change. Tout change, c'est l'évidence que le regard, la première analyse, montre un changement considérable dans tous les domaines et dans lequel le politique n'est qu'un élément dans un énorme changement. Et puis alors, on ajoutait, à partir d'une commune de Vendée, à partir de l'examen des petites villes de Normandie, à partir de l'espace vécu dans le bocage normand, on ajoutait « rien ne bouge ». Non pas que rien n'ait changé, mais rien ne bouge dans d'autres profondeurs, dans d'autres, par d'autres éléments d'analyse que ce tout change. C'est-à-dire, finalement, une invitation à aller plus loin, puisque on reconnaissait qu'il y avait des structures fondamentales qui étaient toujours là. Et parmi celles-ci, par exemple, des éléments en rapport avec le scolaire, avec l'éducation, avec le régime des notables, pour parler très vite. Alors, je ne vais pas plus loin. Simplement, ma question en ce début de la table ronde, est-ce qu'on peut toujours appliquer cette formule-là? Et s'il faut la décrypter un peu plus, est-ce qu'on a des moyens de la décrypter?
Alors, Pierre-Henri Emmengard, je suis, comme je l'ai dit hier, maître de conférence associé à l'université du Havre, c'est-à-dire que je ne suis pas universitaire à temps plein, j'interviens en tant que professionnel associé pour les enseignements à finalité professionnelle. Et je n'ai initialement pas du tout de compétences en matière de géographie politique, puisque mon domaine d'intervention, ce sont essentiellement l'analyse et de recherche professionnelle et universitaire professionnelle, c'est l'analyse des politiques d'aménagement et de déplacement. Mais c'est indirectement donc que j'ai été amené à m'intéresser à la géographie politique en général, et en particulier au tableau politique d'André Siegfried. Pour quelle raison? Eh bien parce que dans le cadre de ma thèse que j'ai faite à l'école des ponts sur l'efficacité des réseaux de transport public urbain provinciaux, avec Gabriel Dupuis, j'étais amené à m'intéresser aux disparités spatiales dans l'usage des réseaux de transport collectif urbain en France. C'était il y a une vingtaine d'années à peu près. Et donc ce travail de recherche a permis de mettre en évidence des facteurs objectifs, qui sont la taille des agglomérations, leur degré de polarisation, c'est-à-dire est-ce que la centralité est forte ou faible, est-ce qu'il y a au contraire un émiettement très très important, est-ce que la densité aussi est importante ou faible, et ces deux facteurs agissant de façon importante sur le nombre, l'utilisation des réseaux de transport et la place que le transport collectif va occuper dans les déplacements en milieu urbain. Néanmoins, une fois qu'on prenait en compte ces deux facteurs objectifs, technico-économiques en quelque sorte, d'interaction entre la ville et son réseau de transport, on s'apercevait qu'on avait, dans chacune des catégories qu'on avait réussi à sous-délimiter, des écarts d'efficacité qui demeuraient étonnamment importants. Et donc une analyse de résidus, c'est-à-dire en prenant dans chacun des types ainsi définis les réseaux qui étaient plus efficace que la catégorie, que le mode à laquelle ils appartenaient, et les réseaux qui étaient les moins efficaces dans chacune des catégories, et qu'on faisait une carte de géographie des réseaux les plus efficaces et une autre carte des réseaux les moins efficaces, et bien sur quoi aboutissait-on? Sur une carte est-ouest-nord-sud, c'est-à-dire la carte, grosso modo, fondatrice de la géographie politique de la France depuis l'acceptation ou le refus de la constitution civile du clergé de 1791. Donc, stupéfaction, si vous voulez, d'une certaine façon, parce que on était loin de penser, en démarrant cette recherche, qui avait une finalité très économique et d'aménagement, qu'on allait déboucher sur une interrogation de nature géographie politique ou de nature géopolitique. Et donc, à partir de là, depuis donc près d'une vingtaine d'années, je poursuis patiemment, comme une petite fourmi qui amasse, ou un écureuil, ou une huître qui prend tout puis filtre les éléments importants, d'essayer de voir, dans le domaine de l'aménagement des déplacements, mais également dans tous les domaines, sans a priori, éventuellement, quelles sont les structurations spatiales qui obéissent à une logique de géographie politique. Alors, à la fois sur la France, mais également entre pays européens. Je vais citer rapidement, pour replacer un cadre plus général, l'analyse. Par exemple, l'histoire du tramway, qui vous connaissez peut-être maintenant. On a près de deux douzaines d'agglomérations qui sont dotées du tramway en France. En 1975, il n'y en avait presque plus. Donc, disparition du tramway en France et retour du tramway. Au contraire, en Allemagne, une histoire du tramway complètement différente, et où on a gardé les réseaux de tramway, on n'a pas eu à faire cette reconstruction. Et si on regarde deux pays qui sont partagés entre des sphères, disons, linguistiques françaises et germaniques, que sont la Belgique et la Suisse, eh bien, les parties alémaniques et flamandes de la Suisse et de la Belgique suivent une trajectoire de type germanique, et les parties wallonnes et romandes de la Suisse suivent une trajectoire de type français. Voilà, je ne m'étends pas plus, y compris quand on regarde à partir de la source des référendums également en Suisse sur des questions, le prix de l'essence, des attitudes, à un certain point, on a également des géographies politiques qui obéissent parfaitement à la composition linguistique de ce pays confédéral. Pour revenir sur la problématique de l'Ouest, donc, et la question que reste-t-il de l'Ouest siegfriedien 100 ans après. Eh bien, on peut dire que il y a mort et transfiguration de l'Ouest siegfriedien, c'est-à-dire on peut, dans un certain nombre de domaines étonnamment variés et sans lien apparent a priori entre eux, découvrir plein de cartes, je ne vais pas les montrer ici, mais éventuellement si c'est nécessaire on pourra y revenir, qui obéissent à cette structuration fondatrice de la géographie politique. Est-ouest, nord-sud. Avec un paradoxe, donc, c'est qu'en matière de transport collectif, les zones qui votaient plutôt collectif ou pour collectiviste donnaient le moins de place au transport collectif. C'est-à-dire que les bons réseaux étaient à l'est et à l'ouest, et les réseaux les moins performants étaient au nord et au sud. C'est la géographie de la présidentielle de 81, c'est on peut comme ça la décliner sur plusieurs présidentielles sur une trentaine d'années. Et alors aussi, très curieux, c'est que à l'intérieur de chacune des zones où on a une logique générale qui semble s'imposer aux acteurs, eh bien, les politiques suivies et la place qu'on donnait au transport collectif étaient indépendantes de l'étiquette partisane. C'est-à-dire que dans le sud-ouest, le maire PS d'Albi ou le maire UDF d'Agen limitait ou était très réticent à limiter l'usage de l'automobile. Alors qu'au contraire, le maire UDF de Vannes et le maire PS de La Roche-sur-Yon étaient beaucoup plus proches. C'est-à-dire que il y avait une logique ouest et une logique sud-ouest qui s'appliquaient à l'ensemble des acteurs, indépendamment de l'étiquette partisane, qui renvoyait donc des structures apparemment sous-jacentes beaucoup plus profondes. Alors, est-ce que dans d'autres domaines, on voit également cette structure sous-jacente à l'œuvre ? Oui. En matière de coopération intercommunale, la carte de France de l'intercommunalité à fiscalité propre, c'est-à-dire des districts, avant la loi Chevènement, qui a incité financièrement les collectivités à se regrouper. Donc cette carte de France des districts sur une base volontariste, lorsqu'il n'y avait pas cette carotte à la clé avec la loi Chevènement, eh bien c'est une carte est-ouest-nord-sud. Et l'ouest a été pionnier dans la coopération intercommunale volontaire. Aujourd'hui, les intercommunalités à fiscalité propre sont quasi généralisés sur l'échelle du territoire. Les domaines d'ailleurs rétifs sont encore, on pourrait le voir sur la carte, plutôt sur un axe méridien que longitudinal, c'est-à-dire nord-sud. Par contre, si l'on regarde de nouveau la taille des intercommunalités et l'existence avant que la TP, la taxe professionnelle, disparaisse, celle qui avait des TPU, des taxes professionnelles uniques, et bien encore, on trouve l'Ouest en position pionnière et d'avant-garde. Et inversement, les zones Nord et Sud, plutôt à la traîne, dans le peloton des retardataires du groupe PETO. Si l'on regarde maintenant le domaine de l'encadrement territorial, le nombre de fonctionnaires territoriaux pour 1000 habitants, pareil, géographie Est-Ouest, Nord-Sud, avec un niveau d'encadrement territorial beaucoup plus limité à l'ouest de la France comparativement à ce que l'on rencontre dans d'autres zones, le pompon étant naturellement la Corse. Autre domaine d'application où on peut rechercher également cette structuration Est-Ouest-Nord-Sud, eh bien les inégalités de revenus. Hein, l'ouest de la France se caractérise par différents calculs, coefficients de Gini, proportions, rapport entre le décile supérieur et le décile inférieur, par une relative moindre ouverture des inégalités dans l'ouest de la France que ce que l'on a vu par le passé. En matière d'éducation également, c'est le cas. La proportion de jeunes sortant sans diplôme, la proportion de jeunes poursuivant et sortant avec un diplôme au-delà du bac, structuration également, est-ouest, nord-sud, c'est un peu plus compliqué là, mais en tout cas, l'ouest apparaît, s'individualise à nouveau. En matière sociale également, on va trouver la proportion de gens qui sont couverts par la CMU, la proportion de gens qui sont au RSA, donc l'intensité de l'action sociale. Et en liaison en partie avec le chômage, mais pas seulement, on a une individualisation de l'Ouest relativement importante. Et on a donc sur plein de domaines qui n'ont apparemment, comme je le disais, aucun lien entre eux, la permanence de cette structuration du territoire, de l'une de ces trois structurations fondamentales du territoire, hein, Est-Ouest-Nord-Sud, corrélativement avec la structuration de la ligne Saint-Malo-Genève qui est antérieure à la Révolution, qui est de l'instruction, la diffusion de l'alphabétisation à la fin du XVIIIe, et la ligne Le Havre-Marseille qui est la structuration du XIXe, de la deuxième moitié du XIXe, de la France urbaine et industrielle. Alors, pour répondre à la question, je dirais mort et transfiguration de l'Ouest siegfriedien. Et si politiquement il change de nature, ou il est composite, ou ce qui était de gauche, ce qui est de droite devient de gauche, etc., on a eh bien une résurgence dans des domaines tout à fait étonnants et de cette structuration et cette permanence du lien qui interpelle profondément et qui conduit à s'interroger et à essayer de trouver une réponse sur l'origine de cette prégnance des structures profondes.
Bon, Yves Guermont, professeur émérite, émérite c'est un beau nom qui veut dire en retraite en fait, à Rouen. Je suis un peu ennuyé parce que j'ai participé aux premières versions de Géopolitique des régions françaises puisque j'avais rédigé le chapitre Haute-Normandie dans l'édition Lacoste. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, mais j'ai peur que mon intervention soit un peu décalée par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Décalé pour deux raisons. D'une part, parce que je ne voulais pas vous parler de géographie politique, tombe mal. Et pour une deuxième raison, c'est que mon travail n'est pas un travail au ras du terrain, mais un travail plus général et plus théorique, si on veut. Bon, la raison pour laquelle je suis là, quand même, à la demande de Michel Bussy, c'est parce qu'il se trouve qu'au début de ma carrière universitaire, j'ai fait une thèse sur la différenciation spatiale en agriculture dans la France de l'Ouest et que le découpage que j'avais pris de la France de l'Ouest était justement le même découpage que celui de Siegfried. Bon, dans le cadre de ce découpage de la France de l'Ouest, mon sujet de thèse à l'époque, c'était les années 70, c'était un peu le thème à la mode, il s'agissait d'étudier, d'analyser ce qu'on appelait à l'époque le progrès agricole dans la France de l'Ouest. Et ce progrès agricole, ça fait sourire actuellement parce que précisément ce qu'on appelait progrès agricole dans les années qui sont cartographiées ici, c'est-à-dire les années 1950-1975, ce progrès agricole, c'était tout ce qui est critiqué actuellement, parce que c'est d'abord de l'agriculture productiviste, et c'est une agriculture qui n'est pas du tout écologiste, donc c'est le contraire du progrès agricole actuel. Alors, mon interrogation, c'était, mais elle n'est pas, c'était presque un sujet de réflexion, je ne peux pas dire que je vous donne une piste, mais je ne vous donne pas de certitude sur mes conclusions. Mon interrogation, c'était ces aires de progrès agricole définies pour les années 1950-1975, qu'est-ce qu'il en est maintenant du point de vue de l'agriculture écologiste, entre guillemets. Est-ce que ce sont des zones tout à fait différentes, c'est-à-dire qui s'opposent à la tradition d'agriculture productiviste, ou est-ce que ce sont les mêmes? Bon, je passe très vite sur la définition des aires de progrès agricole dans les années 50-75. J'avais fait simplement une analyse du système d'interaction entre trois ensembles de variables qui étaient définis par une analyse multivariée. Trois ensembles de variables qui sont, d'une part, l'évolution démographique et économique. Je passe au détail, mais la densité d'actifs agricoles, la diminution du nombre d'exploitations. Deuxième ensemble de variables, les systèmes d'exploitation, appréciés par le développement des cultures maraîchères, ou le développement du maïs, ou le développement de l'aviculture, ou encore une très forte progression du troupeau bovin. Et un troisième ensemble de variables, qui était l'évolution psychosociologique, appréciée par le rythme de vieillissement des exploitants, ou par une existence importante d'une micro-coopération entre les exploitants agricoles. Donc trois ensembles de variables déterminées par l'analyse multivariée. Ces trois ensembles formaient donc un système d'interaction, et ce qu'essayait de reproduire la carte, c'était le résultat de ce système d'interaction, c'est-à-dire la superposition de ces trois ensembles de variables, et on a estimé que lorsque les trois ensembles étaient superposés, mais on a appelé ça un noyau de progrès agricole. Et s'il y a seulement deux ensembles superposés, c'est un noyau moins important, c'est tout. Et puis on avait distingué les interactions positives ou négatives. Bon, donc on avait défini un ensemble de noyaux de progrès agricole. Maintenant, on peut se dire que ces analyses multivariées, bon, on y croit, on n'y croit pas, c'est peut-être un peu mélanger toutes les variables, parce que ça donne. Alors pour essayer de vérifier si on avait raison ou tort, on a essayé de vérifier ces noyaux de progrès agricole en utilisant d'autres variables prises un peu comme typiques d'une certaine évolution de l'agriculture à cette époque, 1950-1975. Ici, ce sont l'existence de marchés au cadran pour les ventes des porcins et des bovins, et puis l'existence d'usines de déshydratation des fourrages, qui étaient deux critères du progrès agricole dans ces années-là. Et simplement pour vérifier si on s'était pas trompé dans les noyaux, et effectivement, c'est assez bon parce qu'on tombe, en fait, dans les noyaux qu'on vient de définir. Sauf pour le Nantais et Saumurois, mais c'est normal parce que ces deux critères ne portaient pas réellement sur de l'élevage, puisque c'était les marchés au cadran d'une part, et puis les usines de déshydratation des fourrages. Donc on a pris un troisième critère, qui était l'agitation paysanne, enfin... Pourquoi est-ce que c'était un critère? Parce que les années 70, c'était l'époque des paysans travailleurs, qui était une suite de la JAC, puisque beaucoup de ces animateurs, des paysans travailleurs, étaient des anciens de la JAC. Donc c'était un autre moyen d'apprécier, je ne dis pas le progrès agricole, mais un certain dynamisme du milieu agricole parmi les jeunes agriculteurs. Alors là, on retrouve le Nantais saumurois qui n'apparaissait pas tout à l'heure. Bien, on a, comme c'était l'époque de la mode de la modélisation, on a essayé, je passe rapidement, on a essayé de faire un modèle, de ces zones de progrès, en voyant que ces zones de progrès coïncidaient dans la zone de forte influence urbaine. Alors l'influence urbaine, on l'avait appréciée par un modèle de potentiel à partir de population des villes et puis de l'influence parisienne. Dans cette zone de forte influence urbaine, c'est-à-dire plutôt à l'est, il y a les zones de labour qui se distinguent particulièrement, et en particulier le bassin de la région centrale. Et puis dans les zones de l'ouest réel, moins influencées par l'influence urbaine, ça correspond à des zones de forte densité de population agricole. Donc, il y a un peu... Bon, puis évidemment, il y a à part la question de la Haute-Normandie, où il s'agit évidemment de zones qui sont de progrès agricole de ces années-là, mais qui s'expliquent par l'existence de grandes exploitations. Donc, si vous voulez, on peut laisser la question de la Normandie à part, surtout de la Haute-Normandie, ce qui justifie le fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, ça n'a pas grand-chose à voir, et toutes les idées de réunification des deux Normandies, je ne crois pas beaucoup. Mais c'est une autre question. Alors, la question qui se pose, c'est, ces zones-là, qui étaient définies dans les années 50-75 pour des zones de progrès agricole, mais de progrès agricole, tout ce qu'il y a de plus productiviste et tout ce qu'il y a de plus anti-écologique, alors évidemment, maintenant, l'agriculture d'orientation écologique, elle devrait être très différente, parce que c'est en réaction contre ça. L'ennui, c'est que le dernier recensement ne donne pas beaucoup de précisions sur l'agriculture. Le recensement agricole est assez intéressant à exploiter au niveau local pour apprécier vraiment quelle est l'ampleur de l'agriculture écologique. Alors j'ai pris un autre critère, tout simplement, c'est les agriculteurs certifiés bio en 2007, d'après un site internet. Bon, ces agriculteurs certifiés bio en 2007, on y retrouve nos trois zones de tout à l'heure, c'est-à-dire le Nord Finistère, la région de Bassin de Rennes et la région du Nantais-Saumurois. Donc, à ce moment-là, c'est assez curieux quand même, parce qu'effectivement, c'est en fait les zones qui étaient des zones de progrès agricole, productivistes, anti-écologiques, dans les années 50-75, est-ce que ce ne seraient pas ces mêmes zones qui seraient actuellement les zones d'agriculture biologique? Ça me ramène à une phrase de... je disais que je m'étais inspiré du découpage de Siegfried pour le début, mais qu'il n'y a pas que le découpage. Il y a aussi cette idée qui est dans l'introduction du livre de Siegfried, qui dit ceci, qu'à travers 40 ans, dit Siegfried dans son introduction, ce sont les mêmes provinces, les mêmes cantons, souvent jusqu'aux mêmes communes, qui restent orientées dans le même sens des mêmes courants, ou fixées dans l'immobilité des mêmes résistances. Alors vous me direz, en disant ça, je dis rien de nouveau. Ben, on ne dit jamais rien de nouveau, c'est-à-dire que comme disait André Gide, on ne dit jamais rien de nouveau, c'est pas une raison pour continuer de parler, puisque personne n'écoute. Bon, donc c'est un thème sur lequel on peut réfléchir.